affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Il y a 30 ans, quand on voulait que les fronts adoptent un pli sérieux, que les voix deviennent graves, nous parlions de politique. Parler de religion, en revanche, était le meilleur moyen de faire rire. La situation s'est inversée, la politique suscite dans le meilleur des cas un haussement d'épaules apitoyé, et bien des gens ne voient dans les politiciens que des clowns, aidés en cela, reconnaissons-le, par certains des plus hauts placés. Mais quant à la religion, finit de rire. L'inquiétude s'installe à l'égard de certaines de ses formes et de la violence que, suppose-t-on, elle fomente. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de notre invité, Rémi Brague, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il figure dans l'avant-propos de l'ouvrage qu'il vient de consacrer aux faits religieux, sous le titre très sobre de « Sur la religion » aux éditions Flammarion. Un titre très sobre qui nous donne d'ailleurs le ton de l'ouvrage et certainement son objectif, la volonté d'éclairer nos contemporains en plein désarroi face à ce qu'ils peuvent percevoir comme une résurgence du fait religieux, une résurgence qui les dérange d'autant plus qu'ils pensaient, pour un certain nombre d'entre eux, en avoir fini, sinon avec Dieu, au moins avec les religions. Or, comme chacun sait, il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine ou journal pour le constater, le fait religieux est redevenu un fait social, un fait historique, historique à l'échelle mondiale, bien sûr, où il continue de compter, mais également sous nos contrées. Il nous oblige donc à le comprendre, et tel est certainement l'objet de l'ouvrage, comprendre ce fait religieux que nous avions un petit peu perdu de vue, le comprendre, car nous devons nous y confronter, et que pour cela, la raison et la connaissance historique nous sera certainement d'un grand secours contre les préjugés de toute nature. Rémi Brague, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Et est-ce bien cela l'objet de
votre
livre ?
Tout à fait. Je n'aurais pas pu mieux dire moi-même. Vous avez eu tout à fait raison d'insister sur le caractère plat comme une limande du titre. C'est voulu. J'avais hésité entre plusieurs possibilités, soit de mon cru, soit proposées par mon éditeur, mon éditrice en l'occurrence, que je remercie ici. J'avais pensé à religion et religion, en inversant le singulier et le pluriel dans le titre du poème de Victor Hugo. Et puis ensuite, on m'a proposé « Qu'est-ce que la religion ?» Alors je n'ai pas insisté pour maintenir le premier titre, parce que ça pouvait laisser penser que je parlerais des religions en général, de toutes les religions, et Dieu sait, c'est le cas de le dire, Dieu sait s'il y en a. Comme ça n'est pas le cas, j'ai écarté donc cette première tentation. La seconde possibilité, qu'est-ce qu'une religion risquait de susciter chez le lecteur des espoirs, des attentes que je ne pouvais combler. En ce sens que lorsque l'on pose une question, qu'est-ce que la religion ? Ben, on attend une réponse, on attend donc quelque chose comme une définition. Or, je me suis aperçu que s'il y avait bien entendu entre les différents phénomènes que nous regroupons sous la couverture religion des airs de famille, une définition en bonne et due forme me semblait impossible, ou en tout cas était hors de ma portée. J'ai donc voulu laisser entendre par ce titre que je parlerai effectivement de phénomènes que l'on appelle religieux, que je ne dirai pas tout ce que l'on pourrait dire à leur sujet, que je ne chercherai pas à les ramener à une essence précise, mais que j'essaierai de dire là-dessus eh bien, des choses qui n'ont pour but, comme je suis dans le civil philosophe, qui n'aurait pour but donc que d'introduire un peu de clarté. de dissiper, alors effectivement, ce que vous avez appelé des préjugés, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, n'ayant pas ici d'importance majeure. J'ai donc essayé de dire, si je puis reprendre un titre célèbre, deux ou trois choses que je sais de la religion ou des religions ou des phénomènes que l'on regroupe, tant bien que mal, sous ce vocable religion.
Alors, même en étant aussi serein, pondéré, scrupuleux, le livre contient un certain nombre de surprises. La moindre d'entre elles n'est pas de découvrir que le mot religion lui-même est extrêmement récent. Ou en tout cas dans son acception actuelle.
Oui, vous avez tout à fait raison de préciser dans son acception actuelle. Le mot est ancien, hein, il existe déjà dans le vocabulaire des anciens romains qui ont d'ailleurs déjà proposé les deux étymologies entre lesquelles nous hésitons. À savoir l'étymologie solidement attestée et qui trouve grâce aux yeux des philologues à partir de « relire ». Relire, c'est-à-dire exécuter avec scrupule les instructions qui permettent d'offrir le bon animal en sacrifice au bon Dieu, qui permettent de ne pas transgresser les limites plus ou moins superstitieuses imposées par le scrupule. Dit religieux, d'une part. Et puis d'autre part, eh bien, l'étymologie sans doute de fantaisie, qui rattache religion à relier, étymologie fantaisiste, disais-je, mais qui a eu un succès énorme. Elle est chargée de sens, oui, elle permet de faire passer sous le pavillon du mot religion des quantités d'idées. Alors la religion relierait le profane au sacré, relierait l'humain au divin. Et puis, dans sa version sociologisante plus moderne, la religion serait un principe de lien social.
Horizontal, alors.
Voilà, c'est ça. Il y aurait des liens soit horizontaux, soit verticaux. Bon, j'essaye de montrer que ça n'est pas très solide. L'usage du mot, disais-je, abstraction faite de l'étymologie, puisque l'étymologie n'est que rarement consciente, mais le mot est utilisé dans toutes les bouches. Le mot, disais-je, est ancien au sens où il désigne des pratiques de culte ou des choses de ce genre-là. L'usage plus moderne, qui n'est guère plus ancien au fond que le début du 19e siècle, j'irais en assez gros, l'usage plus récent donc consiste à dire il y a des religions. Alors il y a le christianisme, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a le judaïsme, etc., etc. On peut allonger la liste en englobant même des religions disparues aujourd'hui ou fort exotiques, ou fort minoritaires. Eh bien, en ce sens, disais-je, l'usage du mot religion pour désigner tout cela, pour mettre tout cela dans un même panier et pour certains dans la même poubelle. Cet usage donc est récent, ce qui ne serait pas un argument contre lui, la date ne fait rien à l'affaire. En revanche, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que le mot de religion, en son usage actuel, je le répète, est essentiellement sorti d'un milieu chrétien. Donc de l'Europe du XIXe siècle, dans laquelle les élites étaient soit chrétiennes, soit sorties du christianisme, mais ce dont on sort, au deux sens du verbe sortir, continue à nous imprégner. Et il est de fait que pour le pratiquant le plus pieux, comme pour le bouffeur de curé le plus enragé, une religion, eh bien ça doit être quelque chose qui ressemble au christianisme. Alors, c'est peut-être un christianisme auquel il manque certaines choses, un christianisme auquel on a ajouté certaines autres choses. Mais enfin, l'ensemble doit ressembler quand même au christianisme. Donc, lorsque l'on dit qu'il faut promouvoir ou réhabiliter la religion, lorsque l'on dit qu'il faut en finir avec la religion, on parle de la même chose. même si, évidemment, le signe change, même si c'est plus dans un cas, moins dans l'autre. Mais on parle du même genre de choses. Alors j'ai voulu critiquer un peu tout cela et montrer qu'il y a plus de diversité encore qu'on ne le croit, et que mettre tout cela dans un même panier a des inconvénients. Par exemple, de nous masquer le caractère religieux de certaines pratiques que nous mettrions plus aisément sous la rubrique culture. Bon, là voilà encore un mot dont il faudrait qu'il faudrait hacher menu comme chair à pâté. Bon, on met ça dans la culture, on met ça dans les mœurs, on met ça dans les pratiques, on met ça dans les usages, dans les habitudes. Enfin bon, disons, on abandonne tout cela en pâture aux sociologues ou aux psychologues. Et on ne voit pas que pour certains et pour certains de nos contemporains, ce que nous considérons comme relevant d'habitudes culturelles, de coutumes, comme on voudra dire, est en fait partie intégrante de ce que nous appellerions, nous, et de ce que appelle religion.
Donc, par exemple
je pense à cette sorte de marché de dupes que nos dirigeants proposent depuis quelques dizaines d'années à nos compatriotes issus de pays islamiques. On leur dit, mais votre religion, nous n'avons pas d'objection. Si vous voulez prier 5 fois par jour plutôt que 4 ou 6, ça ne nous gêne pas. Si vous voulez manger tel ou tel aliment ou vous abstenir d'autres, ça ne nous dérange pas. Si vous voulez aller en pèlerinage à la Mecque, ça nous arrange, puisque c'est la deuxième source de revenus de l'Arabie saoudite, et ça leur permettra de nous acheter davantage d'avions. Bon, donc, votre religion, pas d'objection. En revanche, à la charia, niette. Bon, mais c'est sans voir, justement, que les pratiques que je viens de dénoncer sont demandées et réglementées par telle ou telle forme de la charia. Charia qui englobe aussi des pratiques vestimentaires, des pratiques alimentaires, j'étais déjà mentionné, des pratiques, disons, familiales, des pratiques concernant le droit de succession, le droit pénal, des tas de choses qui, pour un musulman conscient de sa religion, font justement partie intégrante de celle-ci. Donc, j'ai appelé ça un marché de dupes parce qu'on leur offre d'une main ce qu'on leur retire de l'autre. Donc, on comprend que ça suscite...
Donc, on ne peut pas se comprendre.
Pardon ?
Donc, on ne peut pas se comprendre.
On ne peut pas se comprendre. Et puis surtout, on va susciter des affects tout à fait désagréables, tout à fait négatifs. Enfin, lorsque les gens ont l'impression de se faire escroquer, on ne peut pas dire qu'ils aient des sentiments très positifs envers ceux qu'ils considèrent comme des escrocs. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors maintenant, si, avec votre permission, je reviens à la remarque que vous avez faite initialement, sur ce que l'on appelle le retour du religieux, le retour de la religion, le retour des religions, ou comme on voudra. À vrai dire, il s'agit moins d'un retour de la chose même qui aurait, qui serait parti en voyage, en exil. Il s'agit beaucoup moins de cela que d'un retour de nos élites à la conscience du fait religieux. C'est un réveil après une nuit de crapule. Bon, en ce sens que le phénomène religieux n'a jamais disparu. Il a simplement peut-être émigré, peut-être pris d'autres formes, peut-être s'est-il déplacé, mais moi je dirais, si je puis plaisanter un petit peu, que la quantité de religieux est la même, la quantité du religieux, n'est-ce pas, au sens neutre de l'adjectif, est constante, mais qu'elle se déplace. Alors, il est intéressant de voir que les élites intellectuelles, disons occidentales, européennes ou américaines, pendant plusieurs décennies, se sont déplacés d'un endroit sécularisé, par exemple d'un campus d'une grande université, à un autre endroit sécularisé, en empruntant des tuyaux étanches. L'image n'est pas de moi, mais elle est du sociologue récemment disparu. Je ne sais pas si je dois prononcer Peter Berger ou Peter Berger, puisque cet Autrichien était devenu américain. J'ai eu le bonheur de déjeuner avec lui il y a quelques années à Boston, où il était professeur et où moi j'étais professeur invité. Ce monsieur, donc, dont je ne prononcerai pas le nom de peur de rester le cul entre deux chaises linguistiques, disait que les intellectuels occidentaux étaient, c'était son expression, des Suédois d'adoption. La Suède passait dans les années 50-60 pour le pays sécularisé par excellence. Et il poussait l'humour jusqu'à dire que les États-Unis étaient un pays d'hindous gouverné par des Suédois. Il voulait dire un pays de bigots du Bible Belt et d'autres endroits gouverné par les élites sécularisées de Washington. Alors son idée, c'était justement que la vie de ces braves gens à l'intérieur de milieux étanches les avait empêchés de voir, alors premièrement, l'essor remarquable du protestantisme sous sa forme dite évangélique ou évangéliste, je ne sais plus trop comment on dit, en particulier en Amérique du Sud, et jusque dans les pays musulmans d'ailleurs. Enfin, les Kabyles maintenant convertissent, peut-être pas de manière massive, mais de manière significative, à un christianisme de facture évangélique. Il n'avait pas vu le réveil de l'hindouisme sous sa forme nationaliste la plus extrême, qui a amené à des pogroms contre les chrétiens et contre les musulmans dans l'Union indienne. Ils n'ont pas vu la montée en nombre déjà des Haridim dans le judaïsme, qui fait que la population d'Israël en ce moment est en train de basculer, si je puis dire, en direction d'une orthodoxie extrême. Ne parlons pas alors des aspects, disons, déplaisants qu'a pris le bouddhisme récemment. On a, avec la crise des Rohingyas et avec la persécution des chrétiens birmans, dont on parle un petit peu moins, mais qui est aussi réelle, même si elle est sans doute moins sanglante, puisqu'il s'agit plutôt de les obliger à se convertir plutôt que de les fiche dehors, carrément et purement et simplement. Bon, tous ces phénomènes-là, eh bien, n'avaient pas été vus alors qu'ils étaient à tout le moins en germe dès les années 50, 60, 70. Et maintenant, bon, ben, y a pas mal d'intellectuels occidentaux qui se réveillent avec une sacrée gueule de bois et qui ne savent plus trop, si j'ose dire, à quel sein se vouer.
Parce que tous ces phénomènes que vous évoquiez, est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt qu'ils étaient perçus mais mal compris? Je veux dire par là, est-ce qu'il n'y avait pas une tendance en Occident ou dans les élites que vous dénonciez à l'instant, une tendance à leur donner des grilles d'interprétation issues d'autres types de disciplines, des explications sociologiques, des explications géopolitiques, politiques, historiques, que sais-je. Mais en d'autres termes, leur défaut n'était pas de ne pas prendre au sérieux le fait religieux lui-même et d'y voir des faits et une résurgence ou une permanence d'ordre religieux.
Alors c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. On entend encore maintenant, enfin, de moins en moins parce que ça devient de plus en plus ridicule de le dire, on entend encore quand même quelques esprits attardés dire que lorsque quelqu'un se fait sauter en criant « Allahu Akbar », donc ce qui veut dire mot à mot « Dieu est plus grand que tout », c'est à la fois un comparatif et un superlatif, c'est ce que les grammairiens appellent un élatif. Bon. Lorsque des gens font ça, eh bien, il y a toujours un petit malin qui leur dit « Non, non, mais en fait, c'est pas du tout du religieux ». et en particulier, en l'occurrence, c'est pas du tout de l'islam, c'est que vous avez alors telle raison sociologique de vous révolter, c'est que vous avez telle raison historique, vous vous sentez, je ne sais pas, solidaire avec les Palestiniens, c'est une raison psychologique, votre papa vous aimait pas, enfin, vous avez une enfance malheureuse, enfin bon, on va trouver tous les poncifs, disons, de la culture de l'excuse, qui vont eh bien, occulter le fait que bah, certaines personnes croient en tout cas que c'est par religion, que par scrupule religieux, par désir d'être de bons croyants de telle ou telle religion, que ces personnes font ce qu'elles font. Ce livre aux espiègleries de mauvais goût que nous connaissons depuis le mois de septembre 2001 et puis en France depuis pas novembre ou décembre, je ne sais plus, 2015, enfin, des choses de ce genre-là. Bien, ceci dit, alors il est vrai que il me semble, pour dire le moins, extrêmement difficile d'isoler chimiquement, si l'on peut dire, quelque chose qui serait purement religieux et qui n'aurait aucun rapport que ce soit avec bon, bah, la psychologie du croyant, avec la sociologie de celui qui agit, croit-il, ou à tort ou à raison, pour des raisons religieuses, qui n'aurait aucun rapport avec l'économie, qui n'aurait aucun avec, par exemple, dans laquelle, par exemple, certains se sentent, à juste titre, au bas de l'échelle. Bon. Montrez-moi un phénomène à quelque domaine qu'il appartienne, que ça ne vaut pas que pour le religieux, ça vaut aussi pour l'économique, ça vaut aussi pour le politique, ça vaut aussi pour le social, pour le psychologique. Montrez-moi un phénomène qui ne serait que psychologique, économique, social, religieux, etc. Bon, ça n'est pas possible. L'homme, l'humain, si je puis dire, est un tissu complexe dans lequel bon, s'entremêlent des trames et des chaînes multiples, multicolores. Bon. Alors nous pouvons, parce que bah, c'est plus facile pour en parler, nous pouvons essayer de focaliser sur tel ou tel aspect, mais il est impossible de séparer radicalement tel ou tel de ces aspects comme si bien, il flottait dans une sorte d'espace vide et indéterminé. Alors de ce point de vue-là, je veux dire, les gens qui donnent des explications sociologiques, psychologiques, économiques et autres n'ont pas entièrement tort. Il y a du vrai là-dedans, mais il ne faudrait quand même pas négliger bah, ce qui apparaît à la conscience de ceux qui agissent, et qui agissent en se rattachant à telle ou telle tradition religieuse.
Alors, du reste, on sent que la société semble quand même traversée par des mouvements contraires et même des retournements dialectiques. Je veux dire par là que longtemps, les explications d'ordre psychologique, sociologique ou autres liées au phénomène religieux visaient plutôt à décrédibiliser ce phénomène, à expliquer par exemple que la religion était une création due à la peur de la mort. Par exemple, explication d'ordre, je qualifierais d'ordre psychologique, ou une forme de projection mimétique, ou encore le résultat de rapports de force. C'était plutôt des instruments pour attaquer ou déstabiliser ou démontrer que le phénomène religieux, loin d'être indépendant dans sa pureté, était relié à d'autres choses qui, elles, faisaient vraiment l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, le même type de raisonnement est plutôt utilisé dans le cadre tel que vous le décriviez, par exemple pour expliquer le comportement de tel ou tel djihadiste, pour préserver la pureté de la religion dont il se réclame. Comment expliquez-vous ce retournement ?
Déjà, c'est un fait intéressant de le constater. Hein. J'en prends acte. Je ne l'avais pas éclairé, je ne l'avais pas élevé à une conscience tout à fait claire. Mais enfin, ce retournement me semble tout à fait intéressant. Encore faut-il déjà nuancer au niveau déjà des explications que l'on prétend donner. Il est amusant de voir que beaucoup de théories sur l'origine de la religion ou des religions ou de sentiments religieux, comme on voudra dire, sont tout simplement contredites par les faits. L'idée suivant laquelle la religion serait issue de du désir de survie, enfin donc de la crainte de la mort, se voit porter la contradiction par une religion entière, qui est le judaïsme, dans laquelle la survie après la mort est une option. Parfaitement une opinion libre, si vous voulez. Ça ne fait absolument pas partie de ce que l'on pourrait appeler, en forçant un petit peu le vocabulaire, la dogmatique du judaïsme. Ce qui fait d'ailleurs que de nos jours, je crois la majorité des juifs pensent que tout s'arrête avec la mort physique. Et ça n'empêche pas une fidélité absolue à la Torah, même si justement cela doit coûter la vie. D'autre part, une religion comme le bouddhisme apparaît sous nos climats un petit peu boboïsés, si je puis dire, comme avec la doctrine de la réincarnation, comme une seconde chance. Ce que l'on n'a pas réussi dans cette vie, on va nous donner un second billet d'entrée pour un spectacle qui restera à peu près le même. Pour le bouddhisme authentique, à supposer que l'on puisse là aussi en isoler une essence, en tout cas pour le bouddhisme du Bouddha, de celui que nous appelons ainsi, et dont je rappelle que pour le bouddhisme, il n'est que l'une des innombrables incarnations du même principe salvateur. En tout cas, le Bouddha, Gautama, considérait que la renaissance était au contraire une catastrophe. Ça veut dire que si on renaît, ça veut dire qu'on va rempiler, si je puis dire, qu'on va retourner dans la cage aux écureuils. On va redevoir faire fonctionner toute cette machine de souffrance et de désir. Bien, première remarque. Deuxième remarque, la théorie de la religion comme due une sorte de tentative rudimentaire pour expliquer le monde, une sorte de physique primitive qui serait bien entendu surclassée par les progrès de la connaissance de la nature, progrès qui sont absolument indéniables, spectaculaires et même fascinants. Lorsque l'on regarde d'un œil ethnologique les croyances des peuplades dites primitives, qu'on appelle maintenant premières, ça fait plus gentil, on s'aperçoit qu'ils se souciaient comme d'une guigne des phénomènes qui, pour nous, mériteraient une explication, et en particulier qui se fichaient pas mal du tonnerre, de la foudre, des choses comme ça, dont on s'imagine qu'il fallait les expliquer par la présence de Zeus, de Baal, si vous êtes canaanite, voire du Dieu d'Israël, si vous lisez le psaume 29. De fait, on s'aperçoit que expliquer le monde, c'était vraiment le dernier, le cadet de leurs soucis. Et pourtant, ils avaient quelque chose que nous appelons comme une religion. Alors, je reviens maintenant à votre idée centrale. Je vous prie de m'excuser de l'avoir un petit peu négligée pendant ces quelques minutes. À savoir que, alors que, jusqu'à une certaine époque, ces explications sociologisante ou psychologisante ou je ne sais quoi, ou économisante, visait à incriminer la religion en y voyant que une superstructure, comme on disait en vocabulaire marxiste, ça sert plutôt à isoler et à sanctuariser, c'est le cas de le dire, les phénomènes religieux en tant que tels, en les mettant à l'écart de tout ce qui pourrait justement susciter chez l'homme qui y adhère tel ou tel comportement agressif. Alors j'ai l'impression que cela aussi, ça ne vaut pas grand-chose, parce qu'il faut quand même regarder aussi ce que les religions prêchent. Je m'élève, si vous voulez, contre l'attitude fréquente de nos jours qui consiste à dire, bon, finalement, toutes les religions se valent. Alors, soit toutes sont vraies, soit toutes sont fausses. D'ailleurs, les deux, comme elles se contredisent, les deux affirmations reviennent au même. Tout ça, c'est du pareil au même. Hein. Tout ça, c'est du kiff. Bon. Enfin, du kiff-kiff, pas du kiff, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas du tout d'une extase narcotique, mais plutôt d'une identité exprimée en vocabulaire argotique. Bon, je ferme la parenthèse pour faire remarquer qu'on ne peut quand même pas mettre sur le même plan la religion des Aztèques, bon, avec ses sacrifices humains, la religion, enfin, d'un côté donc la religion des Aztèques, la religion de nos ancêtres les Gaulois, dont les géographes, enfin Strabon en particulier et d'autres, racontent que les sacrifices humains y étaient pratiqués. Bon, c'est pourquoi je suis bien content que nous ayons été romanisés, d'une part. Et d'autre part, une religion comme le bouddhisme, qui peut pousser le respect de la vie jusqu'à cette pratique qu'ont certains moines, qui consiste à avoir une petite balayette afin de débarrasser le sol devant leurs pas du moindre insecte qu'ils pourraient écraser. Donc d'un côté, des sacrifices humains, de l'autre côté, un respect absolu de la vie. Si vous voulez mettre ça dans le même panier, libre à vous, mais là je me dirais, bah, vous n'êtes quand même pas très fin hein, dans votre analyse. Vous mettez ensemble des choses qui sont quand même, au fond, assez disparates, même si nous les recouvrons du même mot de religion. Donc bah, voilà, il faut un petit peu distinguer.
L'intelligence consiste à distinguer et discriminer.
Bah, c'est sa première tâche. Elle ne s'arrête pas là, mais elle consiste d'abord, oui, effectivement, à mettre un petit peu d'ordre dans les choses, à ne pas mettre tout dans le même panier.
Alors précisément, on sent que dans l'ouvrage, il y a un double mouvement. D'une part, défendre ou accepter de regarder le fait religieux et le phénomène religieux pour ce qu'il est, et dans son existence propre, avec sa logique propre, et d'autre part, dans un second temps, mais cela, donc, dans un premier temps, face à une vision purement athée ou matérialiste des choses, et dans un second temps, à vouloir distinguer les religions entre elles, et plus spécifiquement celles qu'on appelle les monothéismes, ce qui est le don, je crois, de vous exaspérer, car les monothéismes, même s'ils ont des traits en commun, ont également beaucoup de distinctions qu'il faut souligner, avec notamment beaucoup d'implications pratiques. Peut-on, dans le temps qui nous reste, les passer en revue, puisqu'après tout, nous avions commencé l'émission en soulignant l'inquiétude qui s'empare de nos contemporains face à ce phénomène religieux. Ils ont certainement en tête des questions très pratiques. Quid de la laïcité, comment réussir à obtenir l'intégration ou l'assimilation de populations ayant une religion telle que l'islam sous nos latitudes. Et voilà, faut-il exiger une acculturation? Par quels moyens? Vous avez dit qu'on leur proposait un marché de dupes. Quel serait un marché qui ne soit pas de dupes? Des choses très concrètes.
Oui. Alors là, écoutez, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à toutes ces questions, puisqu'il y en a une légion, dans le temps qui nous reste et qui nous est limité quand même. Je dirais d'une part que, alors il y a effectivement trois expressions qui, sinon m'exaspéraient, m'énervent un petit peu quand même. À savoir ces trois expressions que l'on répète constamment chez les demi-savants, comme dirait Pascal. Les trois religions monothéistes, les trois religions du livre, les trois religions d'Abraham. Bon. Je dis que... Alors, j'ai déjà eu l'occasion de piétiner longuement ces trois expressions dans un livre auquel j'ai donné un titre volontairement désinvolte, du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres. Bon. Je montre que ça n'est pas de la même façon que le divin est unique. Donc il y a monothéisme, si l'on veut dire, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Je montre que le rapport au livre n'est pas le même dans les trois religions en question. Je montre que l'invocation de la figure d'Abraham n'a pas le même sens dans l'une, dans l'autre et dans la troisième. Alors je ne vais pas me répéter ici, enfin sachez que ces trois expressions sont, à mon humble avis, fausses. Et non seulement fausses, mais nous induisant en erreur, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elles ont l'inconvénient supplémentaire de nous rendre aveugles à un certain nombre de phénomènes. Bien. Alors, pour reprendre votre question plus concrète, disons, eh bien, il y a effectivement dans l'islam un problème qui ne se pose pas avec le judaïsme ou avec le bouddhisme, avec d'autres religions, c'est qu'il s'agit d'une civilisation entière, clé en main, si je puis dire. En ce sens que, pour le musulman pieux, et bon, il ne s'agit pas de mettre évidemment tous ceux auxquels on colle l'étiquette musulman dans le même groupe, mais un musulman pieux, disons un musulman conscient de sa religion et y adhérant, cherchant à y adhérer pleinement, saura qu'il possède dans telle ou telle forme de la charia, car il y en a plusieurs formes, quatre dans le sunnisme, sans compter le chiisme, bon, sans compter de multiples variantes, il saura qu'il possède dans la forme de la charia à laquelle il se rattache, eh bien, la réponse à peu près, en principe, toutes les questions d'ordre moral, d'ordre familial, d'ordre économique, puisqu'il y a aussi une finance islamique, à la rigueur, beaucoup moins d'ordre politique, mais en tout cas d'ordre relevant de la vie quotidienne, il aura la bonne solution. Comment faire pour... Comment faire pour se coiffer ? Bah, réponse, si vous êtes un homme, laissez-vous pousser la barbe et taillez votre moustache. Comment s'habiller ? Bah, si vous êtes une femme, mettez un voile. Alors, plus ou moins transparent, plus ou moins long, mais enfin, un voile en toute hypothèse. Bon. Et d'autres réponses de ce genre. L'ennui, justement, c'est que si l'islam se trouve entré dans un pays qui, qu'on le veuille ou non, a été marqué par le christianisme, eh bien, il va y avoir compénétration, si je puis dire, de deux ensembles, de deux totalités, si je puis dire. Or, il est difficile de faire tenir deux totalités dans le même espace. Avec le judaïsme, le problème ne se pose pas, puisque alors que le judaïsme connaît une loi aussi précise,
est-ce que j'allais vous dire,
peut-être même plus précise que celle de l'islam, il ne propose cette loi qu'aux enfants d'Abraham, qu'aux juifs. Les autres, les nations, les goyim, doivent se contenter, si je puis dire, des sept règles qui auraient été données à Noé, au patriarche Noé, au sortir de l'arche. Donc je rappelle que Noé est l'ancêtre de toute l'humanité, puisque la génération d'Adam aurait été effacée par le déluge, selon l'histoire que raconte la Genèse. Bon, Noé a donc reçu sept commandements, qui sont le kit de survie minimal de l'humanité. Hein, ne pas tuer, ne pas kidnapper, instaurer des juges, pas de blasphème, pas d'inceste, ne pas arracher un membre à un animal vivant. Ça, je trouve ça très intéressant. On pourrait presque dire que tous les Vistros, sous l'aspect inceste, sous l'aspect cuisine, est tiré de la page du traité Sanhédrin, où se trouve cette liste des sept commandements. Donc, le judaïsme n'a pas de prétention universalisante. L'islam, lui, combine, d'une part, une loi parfaitement bien ficelée et de portée, portant sur l'ensemble de la vie, avec une prétention à l'universalité. Donc, c'est une sorte de synthèse du judaïsme et du christianisme, de ce point de vue-là. Il emprunte...
C'est une sorte de communautarisme à vocation publique.
Oui, l'expression fait oxymore, mais elle rend très bien le paradoxe, si vous voulez. C'est un paradoxe qui est réel, n'est-ce pas? Une sorte de communautarisme universaliste. C'est assez difficile à penser pour nous qui avons l'habitude de nous déplacer dans des catégories mentales tout à fait différentes, mais je crois que c'est une réalité qu'il faut regarder afin d'essayer de la comprendre.
Vous avez dit que ça pose problème parce que une partie du problème en tout cas, car ces populations de religion musulmane se trouvent dans un pays qui était durablement marqué, qu'ils le veuillent ou non, par le christianisme. On a quand même le sentiment à vous lire que s'ils arrivaient, et c'est peut-être le cas, dans un pays athée, le problème est encore plus grand. C'est-à-dire que la solution ne serait pas de renforcer notre laïcité jusqu'à en faire un athéisme public, général. Ça ne ferait qu'accentuer le problème ou le scandale à leurs yeux, non ?
La laïcité, au sens où je la comprends, c'est la laïcité de l'État. Ça n'est pas la laïcité de la société. Je dirais même, pour citer mon ami Pierre Manin, que si l'État doit être laïque, c'est précisément parce que la société ne l'est pas. Et si l'État, ce qu'à Dieu ne plaise, c'est le cas de le dire, avait l'idée d'essayer de laïciser la société, eh bien, il se transformerait lui-même d'une certaine manière en religion officielle. Il transformerait le laïcisme, qui ça ne serait plus la laïcité, mais le laïcisme, en une religion officielle, et il sortirait des limites de sa compétence. Donc je crois que ça serait vraiment la dernière chose à faire.
Oui, et par ailleurs, est-ce que toutefois, sinon l'intégration, du moins la cohabitation avec ces populations, ne serait-elle pas plus facile, vous semblez le laisser entendre, dans un pays continuant à pratiquer lui aussi une religion, fût-elle différente ?
Écoutez, le fait est que je ne sais pas si je peux parler, si je peux dire les musulmans, enfin disons pas mal de musulmans, considèrent que l'athéisme est une sorte de monstruosité. Enfin, c'est quelque chose qui vous fait sortir des limites de l'humain. Pour beaucoup de musulmans, l'existence de Dieu est quelque chose comme une évidence. Ce qui fait que celui qui la nie, bon, est une sorte d'anomalie. Et on comprend donc cette agressivité, déjà cette incompréhension envers quiconque ne croit pas. En revanche, ils ont un certain respect, eh bien, pour les croyants, quelle que soit leur foi. Bien entendu, ils pensent que l'islam est destiné à remplacer les religions précédentes, à éliminer les religions non monothéistes et à remplacer, mais en les accomplissant d'une certaine manière, en les ramenant à leur vérité initiale que celle-ci avait déformée. Il est amené à remplacer les religions monothéistes. Mais il a, pour les croyants, d'autres religions monothéistes, un certain respect qui ne disparaîtrait dans l'hypothèse, qui n'est pas rigoureusement impossible, où la France, par exemple, parce que c'est mon pays, donc elle m'intéresse un peu plus que les autres, où la France abandonnerait toute pratique religieuse. Je veux dire, où les Français non musulmans abandonneraient toute pratique et toute croyance religieuse, là, je crois qu'ils se sentiraient dans un terrain encore plus hostile qu'ils ne le perçoivent maintenant, que cela ne faciliterait nullement les choses, au contraire. Au contraire, je crois que parler des valeurs de la République, parler des choses comme ça, sans dire exactement de quoi il s'agit, sans leur donner d'autres réalités que de simples règles juridiques, je ne crois pas que ça puisse faire avancer le Schmilblick d'une manière vraiment décisive.
Pour le dire autrement, pour demander à certaines personnes de s'intégrer, encore faut-il leur proposer ce à quoi ils doivent s'intégrer ?
Bien sûr, oui. S'ils ont l'impression de se trouver sur un terrain vague, ben je crois que ça ne n'améliorera pas leur vécu, comme on dit. Non, il faut leur montrer qu'ils ne sont pas sur un espace vide, qu'il y a des pratiques, des règles, des coutumes, des croyances, des habitudes, des lois, bien entendu, mais pas seulement des lois. Il y a des mœurs particulières qui demandent, elles aussi, à être respectées.
Ultime question, parce que malheureusement il nous manque du temps. N'avez-vous pas le sentiment que face à cette résurgence via l'islam sur notre sol d'une religion et du fait religieux, une nécessaire réflexion à laquelle vous participez sur le fait religieux en général, enfin en d'autres termes, est-ce que cette présence-là ne peut pas pousser par un effet de miroir ou de mimétisme ou par simplement le choc que cela provoque à une réflexion sur nos propres racines spirituelles?
Alors écoutez, prêcher en faveur de la réflexion, quand on est philosophe, donc quand on est quelqu'un dont c'est le fond de commerce, si je puis dire, c'est une chose très facile. Je ne vais certainement pas protester et demander que l'on réfléchisse moins, que l'on s'interroge moins.
Mais est-ce que vous le constatez ?
Sur ce que l'on est. Au contraire. Alors je le constate peut-être de loin en loin chez certains individus. Oui, j'ai l'impression qu'il y a, disons, des slogans trop faciles qui passent de plus en plus difficilement. Et puis là aussi, peut-être une réflexion sur ce que, non pas tellement ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes n'est pas grand-chose, mais ce que nous pourrions être, ce que nous devrions être. Là, oui, je crois qu'il y a, quelques personnages qui émergent. Est-ce que ces personnages hirondelles feront un printemps? C'est évidemment une autre question.
Merci beaucoup. Le temps est hélas échu, mais la réflexion peut se poursuivre en se plongeant dans votre ouvrage. On peut le dédier à ceux qui s'interrogent sur ce phénomène religieux, mais aussi à ceux qui veulent entamer cette réflexion plus profonde, ce retour sur soi et sur cette chose difficile à définir qu'est la religion, de façon à ne pas tomber dans des impasses. En quelque sorte, on pourrait dire, je parle sous votre contrôle, que c'est une sorte de manuel visant à combattre l'analphabétisme religieux.
Est-ce que ça vous convient? Si vous voulez, oui, ça me plaît assez.
De façon à mieux le comprendre, mais ce n'est pas son titre, je le rappelle donc, il s'agit de « Sur la religion » par Rémy Brague aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Thank you.